Laissons faire Dieu.
Depuis 24 heures, la comtesse Mao ne décolérait pas. Devant Béatrice d'Hirson, qui l'aidait à se vêtir pour le baptême du roi, elle laissa exploser sa rage et son dépit. On aurait pu croire, Dolente comme l'était Clémence, qu'elle ne viendrait pas au terme de ses couches. On en voit de plus forte qui avorte en chemin. Non, elle a tenu ses 9 mois. Elle pouvait nous donner un enfant mort-né, Nenny. Ah, son rejeton vit. Au moins, ce pouvait être une fille. Point, il a fallu que ce soit un garçon. Valait-il la peine, ma pauvre Béatrice, d'avoir tant fait et couru si gros périls qui ne sont point encore écartés pour être joués par le sort de pareille façon? Car Mao, maintenant, était profondément convaincu de n'avoir assassiné le hutin que pour donner à son gendre la couronne de France. Elle regrettait presque de n'avoir pas tué la femme en même temps que le mari. Et toute sa haine se tournait à présent contre le nouveau-né qu'elle n'avait pas encore vu, contre le bébé auquel elle allait dans un moment servir de marraine et dont l'existence à peine éclose mettait un frein à ses ambitions. Cette femme, puissante entre les puissants, richissime, despotique, avait une véritable nature de criminelle. Le meurtre était son moyen de prédilection pour infléchir le destin à son profit. Elle l'aimait en caresser le projet, en respirer le souvenir. Elle y puisait l'excitation des affres, les délectations de la ruse, la joie des triomphes secrets. Si un premier assassinat n'avait pas eu tout le résultat escompté, elle commençait d'accuser le sort d'injustice, se prenait elle-même en pitié et se mettait tout naturellement à chercher la nouvelle tête qui lui faisait obstacle et qu'elle pourrait abattre. Béatrice d'Hirson, allant au devant des pensées de la comtesse, dit lestement, en baissant ses longs cils, « J'ai gardé, madame, un peu de cette bonne farine qui nous a si bien servi pour les dragées du roi ce printemps. »
« Tu as bien fait, répondit Mao. Il vaut mieux être toujours pourvu, nous avons tant d'ennemis. »
Béatrice, qui était pourtant de belle taille, élevait les bras pour arranger la mantenière de la comtesse et lui poser le manteau sur les épaules.
« Vous allez tenir l'enfant, madame. Vous n'aurez plus peut-être cette occasion de sitôt, reprit-elle. Ce n'est qu'une poudre, vous savez, et qui s'aperçoit à peine sur le doigt. »
Elle parlait d'une voix suave, tentatrice, et comme s'il se fût agi d'une friandise.
« Ah non !» s'écria Mao. « Pas pendant un baptême. Cela nous porterait malheur. »«
Croyez-vous ? C'est une âme sans péché que vous rendriez au ciel. »«
Et puis Dieu sait comment mon gendre prendra la chose. Je n'ai pas oublié le visage qu'il a eu quand je le dessillais sur la fin de son frère, et l'espèce de froideur qu'il me témoignait depuis. Trop de gens m'accusent à voix basse. C'est assez d'un roi pour l'année. Subissons un moment celui qui vient de nous naître. »
Ce fut une maigre cavalcade, presque clandestine, qui partit pour Vincennes, faire de Jean Ier un chrétien. Et les barons, qui avaient préparé leurs atours, attendant d'être conviés à la cérémonie, en furent pour leurs frais. La maladie de la reine, le fait que la naissance ait eu lieu hors de Paris, la grisaille de l'hiver et enfin le peu de joie qu'éprouvait le régent d'avoir un neveu, tout s'accordait pour que ce baptême fût rapidement expédié, comme une formalité. Philippe arriva à Vincennes accompagné de son épouse Jeanne, de Mao, de Gaucher de Châtillon et de quelques écuyers. Il avait négligé d'avertir le reste de la famille. D'ailleurs, Valois parcourait ses fiefs pour s'y faire de l'argent. Évreux était resté à Amiens pour achever la liquidation de l'affaire d'Artois. Quant à Charles de Lamarche, Philippe avait eu la veille une vive altercation avec lui. Lamarche, en l'honneur de la naissance du roi, demandait à son frère l'élévation de son apanage en pairie, ainsi qu'un accroissement de ses revenus.
« Eh, mon frère, avait répondu Philippe, je ne suis que le régent, le roi seul pourra vous conférer la pairie, à sa majorité. »
Les premiers mots de Bouville en accueillant le régent dans l'avant-cour du manoir furent pour demander
« Personne n'a d'armes, monseigneur ? Personne ne porte dague, ni stylet, ni miséricorde ?»
On ne pouvait savoir si cette inquiétude visait les gens d'escorte ou les parrains eux-mêmes.
« Je n'ai pas coutume, Bouville, répondit le régent, d'être suivi d'écuyers désarmés. »
Bouville, à la fois timide et obstiné, pria les écuyers de rester dans la première cour. Ce zèle dans la prudence commençait d'agacer le régent.
« J'apprécie, Bouville, dit-il, le soin avec lequel vous avez veillé au ventre de la reine. Mais vous n'êtes plus curateur. C'est à moi-même et au connétable qu'il appartient maintenant de veiller sur le roi. Nous vous en laissons la charge, n'en abusez point. »
« Monseigneur, monseigneur !» balbutia Bouville. « Je n'avais point dessein de vous offenser, mais il se dit tant de choses dans le royaume. Enfin, je veux que vous voyiez que je suis bien fidèle à ma tâche et que j'en sais tout l'honneur. »
Il était peu habile à dissimuler.
Il ne pouvait s'empêcher de regarder Mao de biais et de rebaisser les yeux aussitôt.